tour prêter de l'argent aux États endettés parce qu'il leur a fallu les renflouer. Donc vous êtes dans cette situation, une crise financière avec les banques au milieu qui semblent en profiter. Et au milieu de cette crise, vous avez un banquier qui vient vous expliquer que tout de même, il faudrait faire un effort pour cesser de s'en prendre aux banques. Mais ce banquier, ni lui, ni les médias qui lui donnent la parole, ne vous expliquent comment il gagne sa vie. Et là, la situation dans laquelle on est, c'est celle que vous évoquiez au début, quand vous me donniez la parole, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Une situation dans laquelle les fonctions d'un expert donné, présentées comme au-dessus de la mémé, au-dessus de la...
Ah, on le garde. au-dessus de la mémé.
De la mêlée. Eh bien, à un point de vue dont on peut estimer que ses intérêts particuliers trouble un petit peu sa vision des choses.
Alors avec nous sur ce plateau, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir.
Bonsoir. Jean-Paul Bédbez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste. Alors 2010 sera-t-elle l'année de la fin de la crise ?
C'est l'année où ça commence à s'améliorer.
Let's cross live now to London. Lawrence Boone is the head of European Economics at Bank of America. Good afternoon, thank you very much for joining us.
My pleasure.
Et pour aller plus loin, sans détour, je reçois Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Cercle des économistes, un cercle de réflexion.
Bon, mais ce Lorenzi dont on parle, eh bien, il n'est pas seul. Il y a tout un tas d'autres experts qui ont à peu près le même profil. On pourrait même dire que les conflits d'intérêts dans le monde de l'expertise économique médiatique, eh bien, c'est la règle plutôt que l'exception. Bon, si ces gens ont toujours la parole, est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres ? Mais il arrive quand même de se tromper pas mal. Ainsi, le 17 août 2007, alors que la crise des subprimes vient tout juste de débuter outre-Atlantique, Eli Cohen, qui fait partie de ces experts, annonce déjà la fin dans les colonnes du Monde. Il dit, je le cite, « Dans quelques semaines, le marché se reformera et les affaires reprendront comme auparavant ». Quelques mois plus tard, Alain Minc, un autre de ces économistes engagé à tour de bras pour nous expliquer que la mondialisation est finalement heureuse, que la crise est bientôt finie, eh bien, il s'enthousiasme de, je cite, « l'incroyable plasticité du système ». Et son verdict, l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Alors, ces gens, les citations, on pourrait les accumuler, on observerait que ces gens se trompent beaucoup. Et qu'en général, leurs erreurs ne dérangent pas trop l'univers bancaire. Est-ce que c'est vraiment...
Ni médiatique.
Et on peut se poser une question qui est la question que se pose Charles Ferguson, qui est le réalisateur du documentaire Inside Job, qui décortique la crise financière. Il se demande, si un chercheur en médecine écrivait un article disant « Pour soigner cette maladie, il faut prescrire tel médicament », et s'il s'avérait que ce médecin recevait 80% de ses revenus du fabricant de médicaments, est-ce qu'on lui ferait confiance ? Cette question, en France, on n'y a toujours pas répondu. Mais aux États-Unis, effectivement, les choses semblent avancer. L'Association américaine d'économie, qui comporte environ 17 000 membres, qui va fêter son 130e anniversaire, vient de décider, c'est très récent, le 5 janvier 2012, que dorénavant, elle demanderait à tous les auteurs qui contribuent à ces revues de déclarer leur conflit d'intérêts. Non seulement elle leur demanderait de les lui déclarer, mais elle se réservait la possibilité d'en informer les lecteurs. Un conflit d'intérêts, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir reçu, sur une période de 3 ans, 10 000 dollars ou plus d'une partie intéressée, c'est-à-dire une entreprise dont les intérêts directs sont touchés par l'expertise ou le papier qui va être publié. Non seulement l'Association américaine d'économie exige cela de ses auteurs, mais elle les invite très sérieusement, avec beaucoup d'appui, à procéder de la sorte dans leurs interventions médiatiques, tribunes, entretiens à la presse, passages dans des matinales de radio de service public, par exemple, pour expliquer le fonctionnement de la crise. Alors, aux États-Unis, ça pourrait conduire à changer certaines choses. En France, lorsque vous interrogez Jean-Hervé Lorenzi, pour revenir à lui, sur de telles mesures, il vous explique, je le cite, que tout cela a un parfum d'années 30.
Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi.
Là-bas, si j'y suis, 2 janvier 2012.
Vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild. J'ai relevé d'autres casquettes, vous me dites si elles sont exactes ou pas. Membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça ?
Oui, mais attendez, on va pas repartir sur.
Oui,
non mais c'est pas le sujet. À part mes préférences sexuelles, je n'ai rien d'autre.
Ah, donc, quelles sont vos préférences sexuelles alors ?
Voilà, le vrai sujet. Non, on discute sérieusement parce qu'on a quand même la conjoncture économique personnalisée. Je trouvais que ça avait des parfums de un peu des années 30.
Il se trouve que dans les années 30, Paul Nizan écrivait ces lignes au sujet des chiens de garde qu'il dénonçait à l'époque, les philosophes.